Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un chiffre flatteur pour le dernier, sauf surprise, Conseil des ministres de l'air Castex. Le nombre de chômeurs catégorie A en baisse de 16% en un an, 600 000 chômeurs de moins. Comment lire ces données? Laurent Kramer dans un instant. Puis nous irons à l'Élysée où les 40 ministres et secrétaires d'État sont réunis. Nouveau gouvernement en préparation, les législatives se préparent aussi. Où en sont les discussions pour une union de la gauche? François Hollande vivement opposé à des listes LFI et PS sous une bannière unique.
Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible.
Le président de la République, l'ex-président hostile à cette union populaire et les autres au PS et chez les écologistes et les communistes, qu'en est-il? Nous ferons le point des discussions avec Yael Goz. Le secrétaire général de l'ONU en Ukraine ce matin à Boutcha, ville martyre.
J'imagine ma famille dans une de ces maisons détruites et noircies par les flammes. Donc la guerre est une absurdité au XXIe siècle.
Plus de deux mois de conflit en Ukraine. Vos questions sur cette guerre 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Notre invité à 13h30 est Armel Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Dans l'actualité encore, le plan blanc déclenché dans une série d'hôpitaux, manque de personnel chronique, l'ancien président de la SNCF interrogé au procès de la catastrophe de Brétigny, le mystère des piqûres, des dizaines de plaintes de victimes en boîte de nuit, concert ou festival, et New Delhi en Inde sous une chaleur écrasante, 46 degrés attendus aujourd'hui. Il y a 200 ans, Champollion déchiffrait les hiéroglyphes. Ce sera le vif de l'histoire avec Jean Lebrun. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons Rhythm Nation de Janet Jackson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Alors que se tient le dernier Conseil des ministres de l'ère Castex, le quinquennat s'achève avec un bilan marquant sur ce qui a longtemps été l'objectif numéro un des dirigeants successifs, la baisse du chômage. Le ministère du Travail vient de publier les chiffres pour les trois premiers mois de l'année. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Baisse de 5% par rapport à la fin 2021 et de près de 16% sur un an.
Oui, et ce sont les chiffres de la DARES, réputés moins flatteurs que ceux du BIT. Le nombre de personnes sans emploi en catégorie A baisse donc de 5% en trois mois, de 16% sur une année. Les petits contrats, les temps partiels des catégories B et C augmentent en revanche de 3 et 6% sur une année, des chiffres du chômage qui restent malgré tout les plus faibles depuis 2012 en catégorie A, toujours donc pour les personnes sans aucune activité, et les plus bas depuis 2008 chez les moins de 25 ans, avec une baisse également de 10% en 3 mois en catégorie A et de 25% en moins donc pour les moins de 25 ans en une année. Pôle emploi compte 3 192 000 inscrits en catégorie A, auxquels il faut ajouter ces 2 400 000 personnes en activité partielle en catégorie B et C. Pas d'impact visible de la guerre en Ukraine à ce stade. Le nombre de démissions est en revanche spectaculaire. Il augmente de 10% en 3 mois et de 35% en une année.
Un nanti de ces chiffres, ces questions. Qui sera encore là dans quelques jours? Qui n'en sera plus? Qui aura changé de poste? Les membres du gouvernement Castex ont forcément ces demandes en tête au moment de siéger à ce qui ressemble, sauf surprise, au dernier conseil des ministres de cette équipe Castex. Pour l'occasion, ministres et secrétaires d'État sont conviés. Ce n'est pas systématiquement le cas pour les secrétaires d'État. Et au lieu de l'habituel salon Murat, la réunion se tient dans la salle des fêtes qui abrite plus facilement les 40 Marocains sur la table à l'Élysée. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Bruno, bonjour.
Alors Maxence, dans cette période particulière depuis dimanche, réélection du président mais sans élan réel, l'entre-deux mandats, l'avant-législative, quelle ambiance ce matin ?
Détendu à première vue, on leur a demandé à quoi sert ce conseil, à se dire au revoir, ça se fait, sourit Joël Giraud. Il y aura encore beaucoup de boulot, tente Jean-Baptiste Lemoine, toujours pas de commentaire, élude Jean-Michel Blanquer qu'on donne sur le départ, pas de doute, Roselyne Bachelot s'en va, tailleur violet, elle immortalise la scène, prend en photo la tribune presse avec son téléphone. Midi 3, une voiture arrive en trombe, les garaviers volent, Barbara Pompili monte 4 à 4 les marches du perron, mais c'était qu'un quart d'heure plus tard qu'Emmanuel Macron descend. Le Premier ministre l'avait rejoint dans son bureau à l'étage dès son arrivée. 20 minutes de tête-à-tête a-t-il alors formalisé la démission de son gouvernement? On le saura bientôt. Le plus probable, cela reste une démission la semaine prochaine, afin notamment de laisser le ministre de l'Intérieur face aux manifestations du 1er mai. Gérald Darmanin arrivé à pied de la place Beauvau, un dossier sous le bras. La seule que nous n'avons pas vu passer, qui est donc arrivée avant, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dont le nom ne cesse de circuler pour Matignon. Autour du buffet de ce pot d'adieu, après ce conseil qui a duré une demi-heure avec 4 projet de loi ratifiant des ordonnances techniques. Emmanuel Macron remercie en ce moment son équipe. Il aura usé, si l'on peut dire, 69 ministres. Ce fut 74 sous François Hollande. Va-t-il glisser quelques indices pour la suite? Beaucoup restent dans le brouillard le plus complet. Certains, comme Amélie de Montchalin ou Olivier Véran, ont déjà fait leur carton, espérant les voir atterrir bientôt dans un autre ministère. Va y avoir un coup de balai, glisse à l'instant un conseiller.
Maxence Lambrecq en direct de l'Élysée avec Frédéric Kérou pour France Inter. Dans un mois et demi se tiendront les législatives. À la présidentielle, la gauche s'était présentée avec 6 candidats. Affichera-t-elle un front plus uni les 12 et 19 juin? Ça se joue en ce moment dans des négociations entre d'un côté les insoumis de Jean-Luc Mélenchon qui ont clairement la direction des opérations et de l'autre côté chaque parti, écologiste, communiste, socialiste. On peut conquérir le pouvoir, dit Jean-Luc Mélenchon ce matin dans une interview à l'Humanité. Alors arrêtons-nous un peu longuement sur ce sujet, sur ces négociations avec le chef du service politique de France Inter. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
Avant d'entrer dans le détail, Yaël, globalement, où en sont les négociations?
Alors, il n'y a pas encore de feu vert pour aucune des parties prenantes à cette négociation. C'est important d'avoir ça en tête. Les négociations traînent, c'est pas facile. Feu orange, voire rouge pour les écologistes. Pas de deal possible pour eux parce qu'ils n'auraient pas suffisamment d'investiture. On va y revenir. Feu orange aussi pour les communistes. Ça piétine, les retours ne sont pas bons. Dans l'état actuel des discussions, il n'y aurait pas de représentants communistes dans 90% des circonscriptions. Orange clignotant mais presque vert pour les socialistes. Et ça, c'est un peu le paradoxe du moment, Bruno. Étonnante convergence sur le fond, même les insoumis sont les premiers surpris, mais ils ne sont pas encore entrés dans le dur des circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon réaffirme lui sa main tendue, c'est un groupe, c'est-à-dire au moins 15 députés, un groupe pour chaque partenaire de la coalition, c'est son engagement. Mais même si chacun fait un effort, les programmes ne sont pas les mêmes. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de candidatures à gauche à la présidentielle. On va pas tout citer ici, mais oui. La retraite à 60 ans, par exemple, fait débat. La désobéissance par rapport aux traités européens, l'international, l'OTAN, on reste ou on en sort? Le non-alignement par rapport à l'Ukraine, est-ce que ça doit engager l'arrêt des livraisons d'armes? Le nucléaire, enfin. LFI et les écolos sont d'accord pour en sortir vite, mais pas les communistes.
Alors, allons-y dans le détail. On a déjà bien commencé le détail. L'actualité du matin, c'est le Parti communiste. Son secrétaire national, Fabien Roussel, ancien candidat à la présidentielle, faisait le point.
Nous discutons toujours. Et tant que l'on discute, on progresse. Nous souhaitons que cela s'accélère pour aboutir dans les jours prochains, mais sans en rabattre sur l'ambition. Et donc, avec des objectifs de conquête pour tout le monde. C'est possible. C'est toujours à portée de main. Et nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, communistes, écologistes. Créer les conditions du rassemblement, c'est créer les conditions que nous soyons tous dans ce rassemblement. Et qu'il ne soit pas exclusif à l'une ou l'autre force, et que nous puissions tous additionner nos voix. Si Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 7 millions de voix, l'ensemble des autres candidats, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et moi-même, en avons rassemblé plus de 3 millions. Et notre objectif est non seulement de les additionner, mais même d'aller plus loin si nous voulons construire une majorité.
Propos recueillis par Louise Bouyens. Voilà pour les communistes. Avec les Verts, Yaël Goz, on vous retrouve. Ça coince donc sur le nombre de circonscriptions que leur laisseraient les insoumis.
Oui, ça s'est considérablement dégradé en 48 heures. Mardi, LFI, voyant que ça bloquait, demande publiquement aux écologistes de régler leur désaccord interne, donc en rejetant la faute sur l'autre, sur le partenaire. Riposte hier de Julien Bayou, le patron des Verts, qui a tout mis sur la table. Conférence de presse avec rétroprojecteur, tableau Excel, pour dire que LFI est trop radine sur les circonscriptions. C'est une investiture sur 5, sinon rien, pour les Verts. Derrière ça, on parlait du fond des programmes, oui. Il y a un enjeu qui est moins glorieux, mais qui est essentiel, c'est l'argent. Le financement de la vie politique française. Si vous décrochez un député, vous avez 37 000 euros de dotation par an pour votre parti. Et 1,50 euros environ par voire récolter, à condition d'avoir au moins pu présenter 50 candidats. Oui. On voit pourquoi ça se tend.
Alors venons-en maintenant au Parti Socialiste, Yael. Chacun en tête les scores de leurs représentants au premier tour. 22% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,75% pour Anne Hidalgo. L'ancien président de la République, François Hollande, était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Il dénonce l'idée de candidature sous une bannière unique de la gauche ou législative. Plus de candidats socialistes dans les trois quarts des circonscriptions, ce serait une première dans l'histoire de la gauche, selon lui. Et puis il estime, vous en parliez du programme, il estime qu'un accord sur le fond pour un éventuel gouvernement dirigé par les insoumis, eh bien c'est impossible.
Ça voudrait dire que le prochain gouvernement serait amené à désobéir aux traités européens. Le prochain gouvernement serait amené à quitter l'OTAN, à ne plus aider les Ukrainiens en leur fournissant des équipements militaires. C'est la position de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Ça veut dire que le prochain gouvernement serait dans l'idée de faire une retraite à 60 ans. Tout le monde sait que c'est impossible financièrement. Ce qui est en cause là, c'est pas mon quinquennat, mais là c'est une remise en cause de l'histoire même du socialisme.
Vous ferez quoi, François
Lambsi ? François Mitterrand et ses engagements européens, de Lionel Jospin et sa crédibilité économique et des avancées sociales, et de ce que j'ai pu faire aussi.
Voilà pour les propos de François Hollande avec Marc Fauvel et Salia Brakia. Ses proches sont sur la même ligne, mais d'autres au PS sont pour un accord. Le PS est en train de se déchirer.
Oui, dans un état lamentable, hein, ce parti qui a quand même gouverné 24 ans la 5e République, une déchirure profonde sur la question de l'alliance à Mélenchon. Il n'y a pas de gauche irréconciliable, mais des socialistes qui le deviennent, eux, vraiment, entre eux. Hein. Les sorties de Hollande font suite à une longue série. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du PS, Stéphane Le Foll, l'ancien ministre, qui eux aussi on considérait que cet accord allait enterrer le PS. Une coalition, c'est pas une soumission, ça c'est ce que leur dit le premier secrétaire actuel Olivier Faure. En fait, il y a beaucoup de ressentiments et de haine recuite historique par rapport à la figure de Jean-Luc Mélenchon, l'ancien camarade. L'affiche Mélenchon Premier ministre qui circule en ce moment a réactivé un procès en hégémonisme à gauche, la crainte d'être satellisé. François Hollande voudrait ressusciter un accord sans LFI avec communistes, écologistes et socialistes à l'ancienne, la gauche plurielle, mais c'est pas ce qui est sorti des urnes à la présidentielle.
Et du côté Macron, on dit à ces socialistes qui seraient en rupture de banc, eh ben rejoignez-nous.
Oui, au moment où Olivier Faure disait mardi soir en réunion au PS, partez si vous le voulez, eh bien il y a le venez, rejoignez-nous, des macronistes issus de la gauche qui eux ont fait le franchi le pas en 2017. Il y a Richard Ferrand, bien sûr, qui dans le Midi Libre ce jeudi lance un appel aux femmes et aux hommes de gauche. Et puis on peut dire qu'il y a plein de sas possibles, il y a embouteillage de possibilités pour réintégrer la Macronie, un territoire de progrès, ça c'est le club d'Olivier Dussopt. Il y a En Commun pour Barbara Pompili, il y a la fédération progressiste de François Rebsamen, l'ancien socialiste, et puis les signaux qu'envoie Emmanuel Macron lui-même quand il donne le portrait robot de Matignon, fibre sociale, fibre environnementale, fibre productive. L'enjeu, c'est la survie de cet espace entre les deux blocs, Mélenchon et Macron.
Voilà pour ce point très complet avec vous, Yael Gauss, chef du service politique de France Inter. Parmi les dossiers sur le bureau du président réélu, les services publics, l'hôpital en particulier, à la PHP, les hôpitaux de Paris, environ 15% des lits sont fermés depuis 6 mois par manque de personnel. Et le plan blanc est de nouveau déclenché dans une série d'hôpitaux, non pas pour faire face à une activité exceptionnelle dans ces hôpitaux français, activité type Covid, mais à cause de l'absentéisme. Dans le Nord, plan blanc par exemple à Tourcoing, Douai et Roubaix, 15% de l'effectif manquant. Reportage Cécile Bideau, France Bleu Nord.
Dans le service de neurologie, le cadre de santé Dino Fazio court entre le couloir.
Je suis au deuxième. Et c'est toi qui prends ma relève de garde.
Et son bureau où il fait et refait les plannings.
Alors attendez, parce que là j'en ai plusieurs.
5 infirmières de son service sont absentes, c'est 1/6 de l'effectif.
On arrive à un stade, je dirais pas au point de rupture, mais on arrive à un moment peut-être jamais connu. Au niveau de la qualité des prises en charge, on sent quand même des difficultés à aujourd'hui, on va pas se le cacher.
Et c'est pour ça que le plan blanc a été réactivé. Sur l'ensemble de l'hôpital, 20 de lits sont fermés, certains services se sont réorganisés avec des journées continues de 12 heures. Guillaume Couvreur est le directeur des ressources humaines.
Le plan blanc, il a une dimension réglementaire parce qu'il nous permet de réorganiser rapidement certains secteurs, mais il a une dimension symbolique pour qu'on puisse diffuser le message que les hôpitaux publics restent toujours sous tension.
Une tension que Guillaume, aide-soignant, ressent particulièrement en ce moment après 14 ans de carrière.
Je mériterais une médaille parce que je n'ai jamais pris un jour d'arrêt. Même pas une heure, donc voilà, je tiens le coup et je prends à la charge l'absence des autres, c'est un effet boule de neige et c'est sans fin.
L'heure n'est pas encore à la déprogrammation d'opérations et l'hôpital de Roubaix compte sur les sorties d'école d'infirmières en juillet prochain pour recruter.
Le contexte, alors que s'ouvre le second quinquennat Macron, c'est aussi l'inflation, 4,5% en rythme annuel en France, mais la flambée des prix en zone euro est très proche de son pic, selon le vice-président de la Banque Centrale Européenne, avant un reflux attendu en seconde partie d'année selon la BCE. Cela fait 3 jours que les pompiers luttent contre le feu dans une des immenses décharges de New Delhi, la métropole aux 20 millions d'habitants. Une autre décharge a déjà brûlé à 3 reprises en 1 mois. C'est notamment l'effet de la chaleur extrême en Inde en ce moment. Un record à 40 degrés le mois dernier. Et aujourd'hui, le mercure pourrait monter jusqu'à 46 à New Delhi. L'enfer
pour ceux qui travaillent dehors. Reportage Sébastien Farcy.
Il est 14h, le soleil cogne comme un marteau et le vent souffle un air bouillant. Mohamed, le visage buriné et transpirant, porte deux bras d'échafaudage en métal sur les épaules, puis les dépose dans le camion. Cet ouvrier de 50 ans travaille et dort sur ce chantier de construction du sud de New Delhi et il essaye d'ignorer la canicule qui l'accable.
Il fait bien plus chaud qu'avant. C'est un gros problème pour nous. Je bois plus de 5 litres d'eau par jour, c'est tout ce que je peux faire. Je dois travailler ici pour vivre. Le soir, nous dormons ici. Il y a au moins un ventilateur.
Ce quartier résidentiel huppé de la capitale connaît un vrai boom de la construction, mais la canicule affecte les travaux, comme l'explique Mohamed Yassine, un des responsables du chantier.
Ces derniers jours, certains travailleurs sont partis parce qu'ils souffraient trop de la chaleur. Et ceux qui restent prennent plus de pauses, donc ça ralentit le chantier.
Dans le nord de la capitale, une grande décharge à ordures a pris feu hier à cause de cette canicule et les pompiers n'arrivent toujours pas à l'éteindre, ce qui pollue dangereusement l'air de la zone. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Des records de chaleur en Inde et au chapitre perte de biodiversité, la déforestation d'une partie de la planète, les tropiques, la ceinture qui fait le tour de la Terre. Les tropiques ont perdu 11 millions d'hectares de forêt en 2021, selon de nouvelles données de l'Université du Maryland, publiées par l'Observatoire mondial des forêts. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
Un quart de cette déforestation concerne les forêts tropicales humides, ce qui est très préoccupant. Cela dit, le tableau est contrasté sur la planète.
Oui, en moyenne. Sur la planète, les forêts tropicales perdent l'équivalent de 10 terrains de foot par minute. C'est vertigineux. Cette déforestation a diminué de 11% par rapport à 2020. Mais elle a entraîné l'an dernier 2 gigatonnes et demie d'émissions de CO2. Pour donner une idée, c'est le volume des émissions d'un pays comme l'Inde, dont on parlait à l'instant, chaque année. Il y a du mieux sur certains points chauds de la planète, et notamment en Indonésie. Le pays a fait des efforts pour réduire l'expansion des palmiers à l'huile, protéger les mangroves. En revanche, le Brésil reste numéro 1 sur ce triste podium. Ce pays concentre à lui seul 40% de la déforestation tropicale dans le monde. Les pertes dues aux incendies pour étendre les terres agricoles ont augmenté entre 2020 et 2021. Or, une autre étude le disait récemment, la forêt amazonienne se rapproche d'un point de bascule qui pourrait la transformer en savane en 2050. En effet, près des trois quarts de la forêt souffrent à cause de la déforestation et du changement climatique. Et désormais, la Bolivie est concernée. La perte de forêt a atteint son plus haut niveau dans ce pays l'an dernier. En cause, là aussi, la culture du soja et l'élevage intensif. Enfin, en Afrique, dans le bassin du Congo, la déforestation fait toujours rage dans les forêts primaires, pourtant essentielles pour stocker du carbone.
En Ukraine, l'image de ce très haut responsable en pull au vert, l'air particulièrement grave dans les rues d'une ville martyre et marquante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en Ukraine, donc aujourd'hui, Kiev cet après-midi, il rencontrera le président Zelensky. Et ce matin, Thibault Lefebvre, il était à Boutcha, où ont été commis par l'armée russe de probables crimes de guerre.
Oui, avant Boutcha, Borodianka, c'est à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, Borodianka et ses immeubles d'habitation pilonnés pendant des semaines par l'artillerie lourde russe, des missiles de croisière et des bombes tombées du ciel. Antonio Guterres s'est arrêté devant le symbole de la violence de ces frappes russes, un édifice coupé en deux avec jusqu'à il y a encore quelques jours des dizaines de civils morts ensevelis sous les décombres.
J'imagine ma famille dans une de ces maisons détruites et noirci par les flammes. J'y vois mes petites filles qui fuient, paniquées. Donc la guerre est une absurdité au XXIe siècle.
Et puis, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu, vous l'avez dit, dans la ville martyre de Boutcha, sur le site des fosses communes creusées à proximité de la principale église. Boutcha, c'est plus de 300 morts, des corps en décomposition retrouvés après le départ des Russes.
Quand nous parlons de crimes de guerre, nous ne pouvons pas oublier que le pire des crimes, c'est la guerre en elle-même. Quelle qu'en soit la raison, la guerre ne peut pas être acceptable.
Des crimes de guerre donc qu'il faudra prouver devant la justice. Antonio Guterres a demandé à la Russie de coopérer avec la Cour pénale internationale, la CPI. Une requête pour le moment restée sans réponse.
Moscou qui se fait une nouvelle fois agressif. Les livraisons d'armes à l'Ukraine menacent la sécurité européenne. La diplomatie russe se dit alarmée parce qu'elle appelle des actes terroristes en Transnistrie, cette région séparatiste pro-russe en Moldavie. Des explosions, des incidents et même une attaque aux lance-roquettes ont eu lieu dans cette région depuis 48 heures.
Autre information indirectement liée à l'Ukraine, Total Energy et ce bénéfice de 5 milliards de dollars au premier trimestre. C'est la hausse des cours de l'énergie qui bénéficie à Total Energy, qui inscrit tout de même dans ses comptes une dépréciation d'actifs de 4 milliards à cause des incertitudes liées à son projet de gaz liquéfié en Arctique. La guerre en Ukraine, toutes vos questions, posez-les maintenant au 01 45 24 7000. À 13h30, nous serons avec Armel Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. L'ancien patron de la SNCF était entendu ce matin au procès du déraillement de Brétigny-sur-Orge. Il est toujours entendu. Une éclisse qui joint les rails entre eux s'était désolidarisée et retournée. Il y avait eu 7 morts et plus de 400 blessés en 2013. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
En direct du tribunal d'Evry, Guillaume Pépi, toujours entendu. Donc il a d'abord dit sa très profonde compassion et solidarité avec les victimes ce matin. Responsabilité morale infinie de la SNCF. Puis il est interrogé sur les causes de l'accident, Mathilde.
Oui, à la barre en costume cravate, Guillaume Pépi prend des notes à chaque question pour ne rien oublier. Interrogé par la présidente, il assure que le réseau était bien vieillissant, mais que vieillissant ne veut pas dire dangereux. Il use de la métaphore. C'est comme une voiture ancienne qu'on passe au contrôle technique. Elle peut être aussi sûre qu'une voiture récente. Sur la cause de l'accident, oui, au début, il a parlé d'un problème de maintenance à Brétigny face aux caméras, mais c'était avant de savoir qu'un autre scénario était possible, celui d'un défaut de métallurgie à la SNCF. Il est donc plus facile d'incriminer le matériel que les autres, attaque un avocat des parties civiles. C'est un double discours, remarque un autre. Non, un discours qui a évolué, répond Guillaume Pépi. Il tente de garder son calme quand il est mis face aux écoutes accablantes des agents de la SNCF après l'accident. Il y a eu de la rétention d'informations, des mensonges, souligne un avocat. Des grosses bêtises, dénonce Guillaume Pépi, et sa voix s'étrangle quand une autre avocate lui parle des victimes.
Mathilde Vinceneux en direct du tribunal d'Evry. Le procès se tient pour 2 mois. Voilà le mystère du moment. Des clients de boîtes de nuit, spectateurs de concerts ou de festivals, victimes de piqûres. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour.
Des dizaines de plaintes ont été déposées un peu partout en France, les dernières à Lanester dans le Morbihan.
Oui, c'était le week-end dernier lors d'un festival de musique, une trentaine de cas recensés. Mais depuis février, il y en a eu bien d'autres. Périgueux, Grenoble, Nantes, Toulouse ou encore au festival de Bourges. Au moins 88 plaintes ont été déposées au total dans tout le pays. Le profil des victimes, des jeunes, femmes ou hommes en train de faire la fête dans des endroits bondés, boîtes de nuit, festivals, concerts, et dont les témoignages varient. Souvent, certains n'ont rien senti sur le coup et n'ont pas du tout de séquelles, alors que d'autres ont repéré une petite rougeur sur un bras, sur le ventre ou la fesse, 1 ou 2 jours plus tard, avec une sensation de grande fatigue. Quant aux analyses toxicologiques, eh bien là, rien de signifiant. Aucune trace de GHB, la drogue du violeur, ni aucune autre substance nocive. Dans certains cas, on se demande même si un produit a vraiment été injecté.
À Tours, 2 plaintes ont été déposées dans la même région. 3 plaintes avaient déjà été déposées l'automne dernier pour des suspicions d'agression au GHB, la drogue des violeurs. Ce sont 2 contextes différents. Donc. Mais Adrien Bossard, France Bleu Touraine, un peu d'inquiétude est perceptible chez les étudiants.
Morgane et Fraise ne comptent plus les témoignages qu'elles voient sur les réseaux sociaux de jeunes femmes piquées avec des seringues.
Ma mère, dès qu'elle voit un tweet sur, par exemple, Facebook ou un truc comme ça, elle me l'envoie en mode « Fais attention, il y a eu des trucs à telle barre, dans telle rue et tout ». On flippe un peu.
On est constamment terrifiés, on a peur. On a peur de notre futur, on a peur de tout, on a peur de notre corps.
Les 2 étudiantes se sentent de plus en plus en danger lorsqu'elles sortent.
En fait, déjà, là, nous sommes 2 bonnes casanières et ça s'est encore aggravé avec justement cette histoire.
Dans leur esprit, ce n'est plus où est-ce qu'on passera une bonne soirée, mais plutôt où est-ce qu'on est sûr de ne pas se faire embêter.
Je peux clairement m'en passer des boîtes de nuit s'il arrive ce genre de truc. Je peux créer ma boîte de nuit chez moi, à la limite.
Les bars, les boîtes de nuit, depuis 10 jours, Amandine, elle aussi les fuit. Et pour cause, elle est allée au Printemps de Bourges la semaine dernière et une de ses amies s'est fait piquer lors du festival. Elle fait partie des 4 plaignants.
C'est le lendemain qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été piquée en allant aux urgences parce qu'elle avait un énorme bleu et un aspect un peu bizarre. Elle n'a pas senti de sensation de drogue ou quoi dans son corps, donc peut-être le VIH. Donc du coup, là, on attend les résultats des analyses. Elle a un traitement contre le VIH, donc pourquoi sortir en fait si on a des risques autant graves quoi.
Comme beaucoup d'autres, Amandine souhaite un renforcement de la sécurité et des contrôles dans les lieux festifs.
Ajra Mohamed, on vous retrouve, on vient de l'entendre ici à Tours, il y a de quoi créer un début de psychose.
Oui, c'est vraiment une grosse crainte chez les professionnels du secteur. Difficile de lancer une campagne de prévention sur ces piqûres dont on ne sait pas grand-chose finalement, c'est ce que nous dit Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'UMI. Autant pour le GHB, on pouvait proposer des capuchons sur les verres, dire aux clients de garder un œil sur leur boisson. Mais là, à part porter une cotte de maille, que faire ? Pareil pour les fouilles, ce serait trop compliqué à mettre en place, dit-il. Et surtout, ça ajouterait de la psychose à la psychose. À Béziers, dans l'une des boîtes de nuit concernées, eh bien, la fréquentation a déjà baissé de 50% ce mois-ci. Après le Covid, on n'avait vraiment pas besoin de ça, disent les patrons de discothèques.
Hier, au début de ce journal, nous parlions de ces coupures ou ralentissements d'Internet dans une partie de la France. Grenoble, Besançon, Rennes, Strasbourg, entre autres, principalement des clients Free, un peu moins SFR. Tout indique qu'il s'agit d'actes de sabotage, attaques d'une ampleur sans précédent, dit la Fédération française des télécoms. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Bruno.
Ce sont des câbles longue distance qui ont été coupés et ça met en lumière une certaine vulnérabilité de ces infrastructures clés que sont les réseaux de fibre optique.
Voilà, il faut rappeler qu'Internet c'est un réseau de câbles enfouis par centaines dans toute la France, parfois sous nos pieds et difficile à sécuriser. Les câbles sectionnés dans la nuit de mardi à mercredi ne sont pas n'importe lesquels, ce sont des backbones, des câbles longue distance à très haut débit en fibre optique, sorte d'autoroute du web connectant à la vitesse de l'éclair les régions entre elles. Et pour semer la pagaille dans une entreprise, par exemple, il suffit de couper avec une disqueuse ou une pince ces câbles déployés le long d'axes routiers, ferroviaires ou fluviaux. Cependant, les potentiels saboteurs doivent être de fins connaisseurs, voire être du milieu, parce qu'il faut savoir où sont et quels sont les câbles utilisés par la ou les sociétés visées. Et si les opérateurs sont tenus de communiquer l'emplacement de leur réseau aux collectivités locales, ils ne divulguent pas les emplacements stratégiques, les lieux où ces câbles sont accessibles facilement, sous des centaines de chambres de tirage, comprenez, sous de simples plaques de fonte qu'il suffit de soulever.
Allez, avant la météo, dans un instant, nous ne pouvions pas terminer ce journal sans vous parler d'un événement capital. Le championnat de France de lancer d'avions en papier, c'est samedi, au pays de l'aéronautique, la région toulousaine. Événement étudiant organisé par une marque de soda qui a trouvé un moyen original de se faire de la pub. Parmi les participants, Antonio Serrano, il a 22 ans. Il fait des études d'ingénieur à Toulouse. Reportage Claudia Calmel.
Et il aimerait bien améliorer ses propres performances, Antonio.
Mon record, c'est 40 mètres.
Il a réussi à se qualifier pour les championnats de France grâce à un modèle d'avion qu'il a trouvé sur Internet. La technique est primordiale, il faut soigner le pliage.
Alors là, en fait, le but de cet avion, ça va être de le rendre le plus fin possible et le plus compact possible. Tac.
Ça ressemble à un cornet de frites.
Exactement, ça ressemble à un cornet, mais vous allez voir, il va être, ça va être un cornet de frites qui va vous permettre d'être championne du monde.
Ok, il n'y a plus qu'à essayer.
Alors le mieux, c'est une jambe en avant.
Comme ça?
Exactement. Ensuite, vous penchez vers le bas et votre bras droit, du coup, il doit partir le plus fort possible, mais à 45 degrés.
D'accord, oui, vraiment un lancer de javelot. Quoi.
Exactement, lancer de javelot.
Allez, on teste. Ma tentative est assez lamentable. 9 mètres, autour d'Antonio de lancer.
Wow.
Ce sera 30 mètres pour Antonio, mais avec un léger vent de face. Le championnat a lieu en intérieur. Une compétition qui lui rappelle bien des souvenirs.
Ça ramène aussi à l'enfance. Les avions, on en a tous fait. Et du coup, je trouve ça assez sympa de revenir à l'âge adulte et de lancer des avions.
Et puis, ça change aussi de la formation très technologique de cet élève ingénieur.
Oui, c'est sûr. C'est complètement agréable de faire quelque chose qui nous sort un peu du quotidien.
Si Antonio se qualifie, il participera au championnat du monde de lancer d'avions en papier à Salzbourg, en Autriche, du 12 au 14 mai.
Et je vous rappelle les deux records mondiaux après ce reportage de Claudia Calmel de France Bleu Occitanie. Distance 69 mètres 14 et durée de vol 29 secondes 2. Ce championnat de France de lancer d'avions en papier se tient au musée Aéroscopia de Blagnac près de Toulouse. C'est ouvert au grand public si ça vous amuse. Samedi, la météo dans un instant.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, bah, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais bah, je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Le programme des heures à venir, soleil à l'est, nuages à l'ouest.
Oui, c'est bien résumé. L'ensoleillement Merci. Sera très généreux cet après-midi sur une bonne moitié est du pays. En revanche, il faudra composer avec une nébulosité plus importante en allant vers l'ouest. Dans le détail, prévoyez un voile de nuages d'altitude souvent épais et chargé de sable, donnant cet aspect peau d'orange entre la Bretagne et la Normandie et des Pays de Loire au Languedoc-Roussillon, passant par Poitou-Charentes. Dans le sud-ouest, nous allons retrouver une perturbation essentiellement nuageuse. Quelques averses se produiront, mais uniquement sur le relief du massif pyrénéen. Et puis à noter une évolution orageuse avant la fin de la journée entre le Limousin et l'Auvergne, débordant vers la Montagne Noire, mais aussi sur le relief des Alpes du Sud. Côté température, les maximales resteront fraîches en bordure de Manche, avec des valeurs comprises entre 14 et 19 degrés. Ça sera nettement plus doux ailleurs. Les maximales évolueront entre 20 et 26 degrés.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Plus de deux mois de guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU en tournée, la Turquie, la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Il est à Kiev cet après-midi. Nous faisons le point jusqu'à 13h45 sur ce conflit qui dure donc depuis plus de deux mois avec Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonjour Armelle Charrier.
Bonjour Bruno.
Et merci d'être venu dans les studios de France Inter. 01 45 24 7000 pour les questions des auditeurs ou l'appli France Inter. Rubrique réagir. Antonio Gutiérrez donc à Borodianka, à Boutcha, avant Kiev cet après-midi. Est-ce que l'ONU a quelque rôle que ce soit dans ce conflit et peut jouer au moins un rôle de médiateur ou apaiser le conflit ?
On est content de voir que l'ONU arrive enfin, parce que ça veut dire d'un seul coup on arrive sur du multilatéralisme. Voilà. On n'est plus dans le face-à-face entre les Ukrainiens et les Russes qui avaient débordé avec les Ukrainiens, les Américains, les Européens et les Russes. Et finalement, effectivement, ce conflit, il est regardé par tout le monde. La Russie, elle est aussi regardée par la Chine et par l'Inde, puisque quelque part, ils ont aussi envie de tendre la main vers ces pays-là. Et puis, il y a aussi une politique de la Russie qui est quand même très marquée en Afrique. Donc, vous avez plein de pays qui, aujourd'hui, regardent tout ça. Donc, quand Antonio Guterres se déplace à Kiev et se déplace à Moscou, il représente tout ce monde-là. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que d'un seul coup, il a pris le soin d'aller voir d'abord Vladimir Poutine à Moscou et ensuite d'aller voir le président Zelensky à Kiev.
Ce que lui a reproché Zelensky d'ailleurs.
En lui disant vous n'aviez pas commencé. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se parlent. C'est qu'il y ait des choses qui soient dites. Peut-être qu'il y a des choses qui se disent discrètement quand on est dans des tête-à-tête, quand on a franchi comme ça des frontières et qu'on n'est pas au téléphone ou qu'on n'est pas en vision. On ne sait pas ce qui se raconte. Donc au moins, ça lui fait prendre conscience de certaines choses et ensuite de savoir comment est-ce qu'il peut négocier. Alors, il peut négocier effectivement en disant, par exemple, pour tout ce qui est les massacres, il faut qu'il y ait maintenant une enquête qui soit mise en place. On avait déjà la CPI, c'était déjà le rôle de la Cour pénale internationale. Elle avait déjà répondu présent, mais au moins, il demande aux Russes d'être plus opérants et de s'y affilier. Et puis, l'autre chose auquel il doit évidemment répondre, peut-être qu'on y reviendra, c'est la question que lui pose le président Zelensky, c'est regardez les crimes de guerre, je voudrais que vous puissiez qualifier ça de génocide. Mais la troisième chose qu'il peut arriver, parce que c'est le secrétaire général de l'ONU quand même, il doit parler des civils. Il doit parler des réfugiés, il doit parler des corridors humanitaires, parce que ça c'est son rôle, et c'est le rôle du multilatéral. Dès que les gens ne veulent plus parler, le multilatéral peut dire « on peut vous assurer un corridor quelque part, on peut vous assurer une zone ». Si on ne peut pas le faire, alors on n'a plus de diplomatie, on est vraiment en guerre.
Et les corridors de Mariupol, ce qui laisse penser tout de même que le rôle de l'ONU se cantonne, mais alors j'entends ce que vous me dites sur, il y a aussi ce qu'on ne voit pas, les discussions qui se tiennent dans les tête-à-tête, que l'ONU se cantonne finalement à de l'humanitaire et que le multilatéral se limite à ça.
Ah, c'est dommage, oui. Ouais. Forcément, mais c'est un peu ce qui est le cas en ce moment dans cette guerre-là. On se rend compte finalement que le rôle de l'ONU, c'est pour l'instant d'intervenir dans le cadre du HCR avec les réfugiés et d'intervenir sur les corridors humanitaires. On se rend compte que le multilatéralisme est un peu en train d'éclater et que c'est vrai que l'ONU, telle qu'elle est perçue aujourd'hui, on pensait toujours au Conseil de sécurité, sauf que le Conseil de sécurité est bloqué par les Russes qui mettent leur veto. Et donc maintenant, on l'ouvre avec l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale, du coup, il y a la représentation de tous les États. Alors peut-être que demain, il y aura une autre vision de la politique qui sera du coup davantage partagée, davantage étayée. Dans ce conflit, on a vu effectivement que les choses avaient dérapé très vite et que, en fait, les angoisses avaient été portées beaucoup par les Américains et que donc, du coup, aujourd'hui, on est sur une position qui est une position de réarmement. on n'est que là-dedans avec les Américains aujourd'hui, avec Vladimir Poutine qui monte en gamme aussi à chaque fois en disant « je peux faire appel à un armement ». Alors on ne sait pas si c'est l'armement nucléaire, on ne sait pas si c'est les missiles hypervélos maintenant qu'il dit avoir à disposition, mais qu'on n'a pas encore vu en usage. Et donc vous avez raison, à partir du moment donné où on est avec cette guerre-là, on est peu dans les négociations et on est peu dans la diplomatie, donc il y a peu de place pour l'instant pour l'ONU.
Allons-y sur le réarmement et cette déclaration venue du Kremlin ce matin, envoyer des armes aux Ukrainiens menace la sécurité internationale. Ce sont clairement, je me souviens qu'au début de la guerre, on a salué les efforts de l'Europe qui débloquaient des crédits, ce qui était un tournant dans l'histoire de l'Europe, c'était nouveau. Au fil des semaines, tout de même, c'est les États-Unis qui ont le leadership.
Oui, c'est les États-Unis qui ont le leadership parce que, d'abord, en termes d'armement pur, c'est eux qui ont les stocks, même si on voit maintenant que leurs stocks eux-mêmes, ils ont du mal, en fait, à pouvoir répondre à toute la demande. Ce qu'on ne réalise peut-être pas, c'est que compte tenu du conflit qui commence vraiment à nous inquiéter parce qu'il dure et que donc, du coup, on voit que ça prend des ramifications de plus en plus importantes, on a un armement considérable qui est envoyé en Europe et que cet armement-là, il va chez les Ukrainiens. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Pour l'instant, il sert dans cette guerre en Europe. Mmh. Alors, les Américains ont été tout de suite très offensifs en donnant des missiles, on en a beaucoup parlé, des missiles qui ont vraiment permis de toucher la défense aérienne russe et donc de pouvoir arriver à ce que, justement, il n'y ait pas beaucoup d'avions qui survolent le territoire, etc. On les a vus monter en puissance maintenant sur des choses qui sont plus opératives en disant on veut mettre des obus et des obusiers. Donc, du coup, ça permet de faire du tir. Maintenant qu'on est dans les grandes plaines du Donbass, on n'a plus besoin d'aller taper les avions, il faut vraiment qu'on tape sur la longueur, etc.
Ouais, la configuration de la guerre a changé. On n'est plus dans des combats de rue ou en tout cas dans des zones civiles. On est dans des zones de campagne, si j'ose dire.
En ayant un peu les deux. Parce que après, une fois qu'on arrive sur les villages ou une fois qu'on arrive sur les villes, là, on redevient dans du combat urbain et donc du combat lent. Et c'est pour ça qu'on voit que ça n'avance pas si vite que ça, mais ça avance quand même du côté russe. Alors pour finir sur votre question, c'est vrai que ce sont les Américains aujourd'hui qui ont l'argent. Ils ont mis un peu moins de 4 milliards maintenant d'aide pour l'armement ukrainien, en commençant déjà un peu avant la guerre. Donc effectivement, ils relancent une industrie de défense, ils relancent une industrie d'armement. Alors on les regarde effectivement avec ce regard qui est que, bah oui, eux, ils n'ont pas de risque parce que c'est pas sur leur continent, cette guerre. Que du coup, quand on parle de sanctions sur le gaz ou sur le pétrole, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont le gaz de schiste et que donc du coup, ils sont libres derrière. Mais c'est vrai que ce sont eux qui sont à la manette aujourd'hui. Et on voit que les Européens suivent, mais avec toujours ces déclaratifs américains. Et que ces déclaratifs américains, ils entraînent des déclaratifs russes. Et c'est là que c'est inquiétant.
Je rebondis, petite parenthèse, sur une de vos phrases. Ils relancent une industrie de l'armement. Ça veut dire qu'ils se disent que ça peut servir pour d'autres occasions. Je pense aux tensions qui montent du côté de la Chine par ailleurs.
Sûrement, parce qu'il y a d'une part, à partir du moment donné où il y a une guerre, vous avez tout un programme qui se met en place. Là, on voyait dernièrement que tous ceux qui doivent fournir, par exemple, les missiles Stinger, etc., ils disaient, ça, c'était des choses que normalement on devait arrêter. Donc, on devait aller les arrêter en 2023. Et puis là, maintenant, on demande d'être réapprovisionné là-dessus. Parce que l'armée américaine ne fournit pas ce qu'elle a de tout neuf. Elle le garde pour elle. Elle fournit la génération en dessous, en fait. Donc, du coup, ça ravive ça. Ensuite, toute guerre génère ça, c'est-à-dire que chez nous aussi, enfin partout, du coup on va se reposer la question de l'armement. Et puis c'est vrai que si on se projette dans la compétition qui est en train de se mener avec les Russes, qui sont effectivement en train de dire nous avons des nouvelles capacités, etc., etc., les Américains vont certainement aussi se projeter sur un plus long terme, et peut-être sur un plus long terme avec les Chinois, oui.
Elisa au standard, bonjour Elisa.
Bonjour à tous. Rapidement, aurait-il été possible d'armer massivement, mais tout de suite, l'Ukraine, dès l'annonce de son envahissement par Poutine, le 25 février? C'est de l'Uchronie, c'est irréaliste.
Mais Armel Charrier, néanmoins, la question est intéressante parce qu'il y avait au début de la guerre cette peur d'être considéré comme co-belligérant et donc d'être embarqué dans une troisième guerre mondiale en une formule. Est-ce que cette crainte demeure ou est-ce que, au fond,
américains comme européens, montent en régime.
Alors, la crainte de la co-belligérance, elle demeure parce qu'il y a à tout moment, ça peut générer un dérapage.
Oui.
Et ça, ça relève effectivement ensuite, c'est presque, j'allais dire, de la psychologie. Donc, on ne sait pas, à un moment donné, ce qu'un chef d'État, surtout un chef d'État tel Vladimir Poutine, qui est donc en position de toute puissance, peut prendre comme étant quelque chose qui a un peu dérapé. Donc, forcément, la co-belligérance, elle existe. Aujourd'hui, on n'a pas fait de co-belligérance au premier sens du terme, mais en soi, quand les Américains mettent 4 milliards, on est quand même sur une aide massive.
Oui.
Alors, madame a raison sur le fait de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça tout de suite? D'abord, je crois qu'on ne l'avait pas imaginé, qu'on ne l'avait pas pensé, qu'ensuite, on a pris en compte le fait qu'on voulait savoir si les Ukrainiens étaient capables ou non de résister, parce que envoyer des armes massives, envoyer par exemple des hélicoptères, des chars, des obus, si vous avez une armée qui, du jour au lendemain, abandonne les armes sur le terrain parce que d'un seul coup elle est faible et oui. que donc ça veut dire que les Russes les récupèrent. Donc on a aussi en partie testé l'armée ukrainienne pour savoir si elle était capable effectivement d'avoir ces armes, si elle était capable de résister, et donc on a vu la gradation qui se mettait en place. Les Européens ne sont pas prêts du tout à aller vers ça. Est-ce qu'ils auraient pu être prêts au départ? Non, parce que finalement les Allemands sont sur un tel changement de paradigme qu'il a certainement fallu cette guerre en Ukraine pour les amener à avoir un changement sur le paradigme. Alors la question est véritable sur la question de la... Si on avait fait ça dès le départ, est-ce qu'on aurait eu un résultat meilleur? Sûrement, pour l'armée ukrainienne, mais dans la construction intellectuelle, c'était plus compliqué.
Quand les Américains, le ministre de la Défense, Lloyd Austin, dit l'Ukraine peut gagner la guerre, on sait la part de communication dans tout conflit, est-ce qu'il y a des choses tangibles derrière cette phrase?
L'Ukraine peut gagner la guerre, c'est d'abord une phrase de communication, vous l'avez dit. Et donc, et les Ukrainiens, eux, ont même changé leur communication, c'est qu'ils ne parlent pas de guerre. Maintenant, ils disent qu'ils se battront jusqu'à la victoire. Ils utilisent le terme de victoire. Donc là, on est sur la notion de morale. Ensuite, la Ukraine peut gagner la guerre, dans la mesure où les Américains ont choisi d'aider les Ukrainiens.
Oui.
Ça veut dire que forcément, ils vont les aider. Et que c'est là où est la question, c'est-à-dire les aider jusqu'où? Et au départ, on avait un conflit régional. Donc on s'était dit qu'on trouverait une solution avec les Russes, peut-être sur la question du Donbass. Petit à petit, on voit une gradation qui est en train de se mettre en place, et c'est ça ce qui est le plus dangereux, c'est qu'en fait, on ne sait pas quels sont les buts de guerre, ni des Russes, dont on a parlé. Est-ce qu'ils ne veulent que le Donbass et la mer d'Azov, et est-ce qu'ils s'arrêteront? En même temps, quand on est dans une guerre et qu'on a réussi une partie, bah peut-être qu'on se dit « Oh, j'ai envie d'un petit morceau de la mer Noire » et qu'on continue. Donc on ne sait pas les buts de guerre russes. On ne sait pas les buts de guerre ukrainiens. Est-ce que finalement, ils avaient envie, en cas de victoire, de récupérer tout leur territoire ou leur territoire amputé du Donbass, mais faisant partie de l'Union européenne? Et on ne sait pas quels sont les buts de guerre américains. Aujourd'hui, le but de guerre américain était de dire... On vient aider les Ukrainiens, on vient faire en sorte qu'ils puissent épouser la démocratie. Mais maintenant, est-ce que c'est ça réellement? Ou est-ce que c'est à un moment donné aller jusqu'à se battre avec les Russes? Et les dernières déclarations qui sont de dire, eh bien non, il faut s'en prendre maintenant à la force militaire russe et on ne peut pas laisser cette force militaire russe mettre en place. Ça veut dire que le but de guerre américain, c'est plus une question ukrainienne. C'est une question de faire mort dans la poussière à Vladimir Poutine. C'est pour ça que dans ces conditions, vous comprenez que nous, les Européens, nous sommes à la fois embarqués dans cette guerre-là, qui se justifie parce qu'il faut effectivement aider les Ukrainiens et que l'opération initiale de Vladimir Poutine était compliquée. Mais si on se retrouve dans un conflit entre Russes et entre Américains, c'est nous qui en payons le prix fort.
Au chapitre crise régionale, est-ce qu'on est en train d'assister à une extension du conflit à la Moldavie et cette région séparatiste pro-russe de Transnistrie?
On peut. On doit le faire pour l'instant avec délicatesse parce qu'on n'a pas tous les éléments. Vous avez vu que les Russes, tout de suite, ont dit non, ça c'est de la manipulation, on veut nous amener au-delà de ce qu'il en est. Alors, il peut y avoir à la fois des pro-russes qui ont pu profiter de cette occasion pour se dire on a aussi envie de récupérer cette partie-là et donc d'appeler les Russes vers nous. Mais c'est vrai que la Transnistrie, c'est une bande de terre qui est indépendante depuis 1990. Donc c'est un peu différent du Donbass. Quand on parle de la crise, on parle de 2014. Donc c'est pour vous dire, quasiment tout de suite à la création de la Moldavie, elle était là, à la fin de l'Empire soviétique, elle s'est créée. Et cette bande-là, sur laquelle tout le monde ferme les yeux, elle existe finalement parce qu'elle permet de faire beaucoup de commerce mafieux. On est dans des zones où la mafia est importante, et donc tout le commerce d'armes, tout le commerce de la drogue, tout le commerce humain se fait beaucoup dans ces zones de non-droit, parce qu'elles sont reconnues absolument pas par la communauté internationale. Donc forcément, vous défendez beaucoup moins les droits humains des gens quand vous êtes dans une zone grise, quand vous êtes dans un vrai pays. Donc pour l'instant, les Russes étaient restés un peu délicats par rapport à ça. Aujourd'hui, s'ils viennent à prendre la Moldavie, ça veut dire qu'ils incorporent aussi cette partie-là. Ça veut dire que dans ces cas-là...
Parce que c'est dans la continuité territoriale.
C'est dans la continuité, voilà. Ça veut dire que du coup, ils récupèrent cette partie qui leur sert quand même depuis longtemps, sur laquelle ils n'ont jamais voulu reconnaître, mais qui leur sert comme ça. Mais simplement, s'ils récupèrent la Moldavie, ça veut dire que derrière, ce qui les intéresse, c'est de déboucher vers la mer Noire. Et si vous débouchez vers la mer Noire, ça fait craindre évidemment pour Odessa en Ukraine, ça fait craindre pour un continuum vers la mer Noire. Et il y en a un autre acteur régional qui va être très inquiet, qui est de l'autre côté des rives de la mer Noire, il s'appelle la Turquie.
Et voilà pourquoi, entre autres, il joue les médiateurs. Merci beaucoup Armel Charrier, éditorialiste politique internationale à France 24, d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Il y a 200 ans, Champollion, les frères Champollion, devrait-on dire.
Oui, parce qu'il devrait y avoir deux obélisques place de la Concorde, et il y a deux frères Champollion.
Vous nous raconterez ça dans 10 minutes. Le feuilleton, les cuisines fantômes de Lyon avec Sarah Guibaudot, et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Aline Afanoukoé.
Bonjour Bruno.
Dragon's Lady est à votre micro aujourd'hui. Son vrai nom, c'est Gisberte Landry. Elle est chorégraphe, danseuse hip-hop et coach. Elle a collaboré avec beaucoup d'artistes, les comédiennes Clotilde Courault, Rossi de Palma. Et elle partage donc sa chanson de cœur avec vous aujourd'hui, Aline.
Basée à Argenteuil, directrice artistique du concours de talent Art en scène, la chanson Rhythm Nation de Janet Jackson est l'hymne de toute sa vie.
Déjà, c'est un titre qui est sorti avec un court-métrage d'une trentaine de minutes et qui parle du rythme de la nation, pour traduire littéralement. Et en fait, lorsque j'ai vu le clip, j'ai explosé parce que ça me rappelait mon enfance, tout, la danse, le mélange, le combat de tous et chacun pour qu'on soit ensemble. Donc ça a été un coup de cœur jusqu'à aujourd'hui dans chaque spectacle. Et ben voilà, c'est devenu un rythme, un hymne plutôt.
Rhythm Nation, en quoi ça vous touche particulièrement, le rythme de la nation?
Parce que, en fait, par rapport à mes origines, moi je suis originaire de la Guadeloupe, mais surtout j'ai grandi dans différentes villes, dans 94, Créteil, 77, vers Melun, et j'ai toujours été dans un mélange au niveau de mes amis, c'est-à-dire on était de toute origine et on était dans un vrai partage. Et comme je viens aussi du mouvement hip-hop, donc ça a toujours été le partage. Donc quand j'ai entendu cette musique, j'ai dit bah, c'est ma vie en fait, elle a chanté pour moi.
Et est-ce que vous êtes aussi identifié, parce que il s'avère que la chanteuse est noire aussi?
Non, pas du tout, c'est parce que c'est Janet Jackson. Janet Jackson, je suis fascinée par son travail, par son côté pointu au niveau artistique et par sa personnalité tellement simple et réservée. D'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler un jour au téléphone, donc ça m'a encore plus confirmé ce que je ressentais. C'est bizarre, mais le fait d'être aussi humaine, bah, c'est pas spécialement sa couleur, mais c'est qui elle est. Et donc, je lui ai parlé de Rhythm Nation, je lui ai parlé de ce qu'elle m'apportait en tant qu'artiste, et apparemment, elle était très émue. Parce que les gens qui étaient autour, ils se demandaient à qui elle parlait. Et en fait, j'étais une inconnue, qu'il fallait qu'elle rencontre, on va dire, quelque part. Et après, elle m'a dit, apparemment, t'es une super artiste et tout ça. Et voilà, et on n'a jamais pu se rencontrer physiquement, mais peut-être un jour, hein, on sait jamais.
Rhythm Nation, tube de Janet Jackson qui date de 1989. Et ce morceau, Aline, a révélé à la chorégraphe Dragon's Lady sa vocation.
Une chanson devenue également célèbre tant pour son message de tolérance et de paix que pour son clip et sa chorégraphie. Des mouvements intemporels que Dragon's Lady transmet à tous ses élèves.
Sur le spectacle que je monte, l'année dernière j'ai fait une chorégraphie, c'est le style hype, c'est-à-dire des années 90, mais un peu revisité. Et là, cette année encore, je refais parce que c'est un hymne, donc on le garde chaque année. Et ce sont des jeunes de 14 à 20 ans, même les coachs, ils adorent ces mouvements. C'est pas du tout obsolète, hein, parce qu'on regarde un peu TikTok, c'est ralenti, mais ce sont les mêmes mouvements.
Vous dansez encore sur cette musique devant votre miroir?
Ah, tout à fait. Moi, dès que j'entends cette musique, je suis en transe. C'est simple, ça me donne la joie, ça, voilà, l'espoir.
Rhythm Nation de Janet Jackson, titre choisi par Dragon's Lady aujourd'hui et Aline, la finale de la troisième édition du concours Arts en scène que dirige Dragon's Lady aura lieu le 2 juillet au Figuier Blanc à Argenteuil à 20h.
Une édition très spéciale puisqu'elle a été ouverte aux seniors. Cette année, il y aura donc sur scène des jeunes talents de 72 ans à découvrir.
Troisième épisode de notre feuilleton dans les Dark Kitchens de Lyon, cuisine fantôme en français, où se préparent les repas livrés à domicile. Alors on a compris dans les deux premiers épisodes le modèle économique chez Food Lab, où est allée Sarah Guibaudot, Food Lab qui regroupe 17 cuisines. Aujourd'hui, épisode 3, comment soigner sa réputation.
Donc ici, on a une salle de repos. Ils peuvent se reposer, recevoir leurs fournisseurs, papoter entre eux, parce que l'idée c'est aussi que c'est un lieu convivial, hein, donc ils partagent. Tout est mis à disposition, il y a des cabines de douche qui se trouvent par là-bas, des toilettes évidemment.
Donc là il y a une grande table, une plante verte, des poufs. T'as une ambiance un peu start-up.
Un peu, bah ouais, hein. Et on n'est pas très originaux. Nous, on est un établissement qui reçoit du public. C'est vraiment notre critère distinctif. Du coup, aussi bien les livreurs que des clients peuvent circuler. On a pignon sur rue, on peut venir nous regarder, nous observer vivre. Et on n'est pas des bêtes de foire, hein. On est des gens tout à fait normaux. Un service qu'on met à disposition, on peut l'entendre d'ailleurs, qui nous tourne.
Oui, on entend les machines à laver.
Parce que nous, on vient des écoles hôtelières, on sait ce que c'est que de travailler dans une cuisine. Donc on leur met ça à disposition pour qu'ils puissent tout simplement gérer leur linge.
Là, tout à l'heure, on est passé devant l'une des grandes enseignes de votre Food Lab, hein, qui ne souhaite pas qu'on la nomme, donc je ne le ferai pas. Mais c'est quand même une grande chaîne très connue. Pourquoi cette réticence? Pourquoi cette mauvaise réputation?
Je fais juste un aparté, mais il faut garder à l'esprit que Pizza Hut et par exemple Sushi Shop, ce sont des enseignes qu'on peut appeler des dark kitchens, hein, parce qu'elles fonctionnent à plus de 80% de leur CA sur de la emportée livrée. Donc on a juste créé ce mot parce qu'aujourd'hui les plateformes de livraison ont diversifié l'offre et ont bousculé le nombre d'offres disponibles. Mais c'est une activité qui existe en France depuis quasiment 50 ans.
Qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans une dark kitchen et être quand même accepté par le voisinage?
Il y a une vraie problématique qui est connue, qui est celle des flux. Ça génère énormément de flux de livraison, principalement en deux roues. Il reste encore quelques voitures, mais justement, les plateformes et les municipalités font le nécessaire, et nous aussi, pour essayer de limiter au maximum possible cette chose-là. Donc nous, à notre propre niveau, on s'installe dans des zones qui sont plutôt, on va dire, d'activité. On est à côté d'un chemin de fer. On essaye tant que possible de limiter la nuisance qui est générée par notre activité. Mais ce qui est vrai aussi dans un restaurant lambda, quand vous avez un restaurant en bas de votre immeuble avec une terrasse, forcément ça enquiquine. On est une activité qui par nature est considérée comme nuisance. Voilà, nous sommes une nuisance. Il y a eu un vrai effet de mode amplifié par le Covid. Tout le monde a voulu faire de la dark kitchen. Donc tout le monde s'est proclamé restaurateur dans cette logique-là, en ouvrant potentiellement dans leur garage. Donc clairement, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer d'hygiène, de sécurité. Et nous, on prend le parti pris inverse, au contraire, avoir des bâtiments qui soient complètement aux normes pour justement permettre cette activité qui est aujourd'hui demandée et qui fonctionne, de l'héberger dans des bonnes conditions.
Alors, pas très loin, justement, il y a une autre dark kitchen qui n'est pas ouverte au public. De l'extérieur, c'est vraiment comme un garage et tout au fond, il y a aussi des cuisines qui sont louées. Et l'un des cuisiniers qui y travaille a justement envie de changer. Il n'a pas voulu me donner son nom, mais j'ai pu lui parler un peu.
Actuellement, la cuisine dans laquelle je suis est trois fois plus petite que celle de Food Lab. Le loyer est plus cher, les charges sont plus importantes. Les riverains n'auront jamais l'idée d'aller tout au bout du garage pour nous trouver, donc nous sommes totalement invisibles.
Quand on est un restaurateur qui se lance, c'est difficile de trouver une cuisine.
C'est très difficile de trouver des cuisines. Le système des dark kitchens, c'est vraiment très pratique parce qu'on n'a pas de patente à payer, on a juste un loyer à payer avec des charges. Et oui, effectivement, on est un petit peu à la traîne, nous à Lyon, par rapport à Paris, parce qu'on manque d'établissements qui proposent ce service.
Le feuilleton Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand et Théo Raison.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire à 13h54, Jean Lebrun, l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. C'est une exposition qui se tient à la Bibliothèque nationale, site François Mitterrand à Paris. Il y a 200 ans, il parvenait à déchiffrer le sens des hiéroglyphes Champollion. Après sa mort en 1832, Louis-Philippe avait racheté ses manuscrits de travail. La découverte de Champollion fut un événement fondateur de l'égyptologie.
Alors, on ne le dit pas assez, mais l'émergence de cette égyptologie, elle est contemporaine de la longue guerre d'indépendance de la Grèce, soutenue en Europe occidentale par le mouvement Philhellène. Sont remises dans la lumière en même temps deux civilisations très différentes, dont on se demande alors laquelle est la plus ancienne et la plus considérable. Le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, a combattu l'indépendance de la Grèce, qui était soutenu par la France. Néanmoins, pour marquer sa reconnaissance à la patrie de Champollion, il offre à Louis-Philippe l'obélisque de la place de la Concorde, restauré cette année. En réalité, il a donné deux obélisques. Le second est resté à Louxor. Deux obélisques, comme il y a deux frères Champollion. Jean-François a en effet un aîné qu'on a surnommé Champollion-Figeac, comme leur ville natale dans le Lot. Il a été tout à la fois le mentor, le père spirituel, le maître et l'élève du cadet.
Et les deux frères vivent en miroir.
Champollion, Figeac, prend Jean-François comme adjoint à la bibliothèque de Grenoble, puis à la faculté de la même ville. Il partage sa passion pour tout ce qui est égyptien. Il l'encourage à capitaliser l'étude de quantité de langues anciennes. Et le chinois aussi. On a pu croire en effet que les idéogrammes et les hiéroglyphes étaient comparables. Champollion Figeac n'approuve pas que son frère cadet se mette au breton. Et il n'est pas d'accord non plus sur le chapitre de la vie amoureuse. « Si mon cœur s'est laissé prendre, c'est mon affaire », lui signifie le cadet au mariage duquel il n'ira pas.
Alors à Figeac, il y a une place des écritures et sur le sol de cette place figure une reproduction, ce qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, la pierre de Rosette, à laquelle reste associé le nom de Champollion.
Qui lui-même n'en a connu que des reproductions. La pierre, 700 kilos hein, tout de même, c'est la base d'une stèle dédiée par le clergé de Memphis à Ptolémée V, 196 avant notre ère. Plus tard, 392 de notre ère cette fois, les temples païens étant fermés et les hiéroglyphes qui en constituaient l'écriture sacrée voués à l'oubli, la pierre avait été arrachée à son lieu. Les membres de l'expédition française de Bonaparte l'ont retrouvée en 1799, réemployée dans les fondations d'une forteresse vaincue par les Anglais. Ils n'ont pas pu l'emporter. La pierre est conservée au British Museum et Champollion a travaillé sur des calques et des empreintes. Cette pierre juxtapose trois écritures d'un même texte, la grecque, l'hiéroglyphe et la cursive dite démotique, dont Champollion avait compris qu'elle pouvait se dévoiler si on l'étudiait à partir du copte contemporain qu'il estimait à juste titre dérivé de l'ancien égyptien. À certains de ses prédécesseurs, il avait emprunté l'hypothèse que les hiéroglyphes qu'enferment les cartouches dans la pierre désignaient des noms de dieux ou de souverains. Il a tenté sa chance avec le mot Ptolémée en le déclinant phonétiquement et ça a marché. Les premiers éléments étaient réunis, c'est la découverte de 1822, il y a 200 ans.
Alors, l'institut qui abrite 5 académies, dont celle des inscriptions, sera un des hauts lieux de l'égyptologie qui naît à ce moment-là.
Ben oui, la communication est faite par Champollion à monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de la dite académie. La Bibliothèque nationale va jouer aussi son rôle. Et le Louvre, Jean-François, il deviendra chef d'une division monuments égyptiens et le Collège de France, où il sera élu en 1831. Sa mort interviendra l'année d'après, mais l'aîné Champollion-Figeac ne va pas lâcher l'affaire. Eureka, je tiens l'affaire, avait dit son cadet. Il se charge de classer le fonds scientifique, dont vous avez dit qu'il avait été acheté par l'État, au point d'ailleurs d'en faire un monopole. Il a été critiqué par ses collègues, il est évincé après la révolution de 1848. C'est à Figeac, vous avez noté, qu'Emmanuel Macron a fait le dernier déplacement de son premier mandat. Il a prêché l'ambition associée à la bienveillance et vice-versa, bah c'est la clé du comportement de Champollion-Figeac. Vive Macron, pardon, vive Champollion-Figeac.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. C'est une exposition à la BNF et puis aux éditions des Belles Lettres, la correspondance entre les deux frères Champollion. Merci Jean pour ce vif de l'histoire. Dans un instant, la Terre au carré.